Voilà, cet après-midi, je vous invite à ouvrir avec moi nos Bibles dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, et nous abordons le dernier volet d'une série que j'ai appelée « Vivre libre et victorieux », où nous avons traité d'un thème assez particulier, mais qu'il est bon de connaître, celui de la puissance de l'iniquité, la puissance de l'injustice. Nous avons d'abord, dans un premier temps, à travers Romains 6, parler de ce qu'est cette puissance d'iniquité, ce qu'est son impact dans nos vies. Et puis la dernière fois, dans Romains 7, nous avons vu comment le Seigneur veut nous rendre réellement libres. Et aujourd'hui, en nous arrêtant sur quelques versets de ce chapitre 8 de Romains, versets 1 à 11, nous parlerons de la liberté que Christ nous donne. Alléluia. Je le rappelle, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu nous donne la vraie vie. Lisons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si on peut dire alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, et il s'adresse à nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alors, je vais faire un peu un rappel, un récapitulatif de ce que nous avons vu. Et tout d'abord, nous rappelons que ce mot un peu étrange d'iniquité nous parle d'une puissance d'injustice qui habite au plus profond de l'homme. Cette puissance d'injustice s'immisce dans les fractures les plus intimes de l'âme. Et elle se nourrit de blessures, de frustrations, d'un environnement inapproprié, de pensées impures, de transgressions dans lesquelles elle nous conduit. Et cette puissance d'iniquité envahit les cœurs. Elle produit un fruit d'impureté, le péché, qui déborde la volonté la plus forte. Nous avons le désir de faire le bien, et je parle là à des chrétiens aussi, mais tant que la puissance de l'iniquité, la loi du péché habite en nous, notre volonté est défaite devant cette puissance d'injustice. Et tous les efforts de l'homme pour anéantir cette puissance d'injustice demeurent vains, car elle est trop puissante, car elle est enracinée au centre même de la vie de l'homme. Tout ça pour dire que la solution n'est pas en nous. La solution est en Jésus. Tant que nous demeurons en dehors de Jésus, nous ne pourrons pas changer ce qui se passe en nous. Mais si nous sommes en Jésus, alors Dieu changera nos cœurs. Être en Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement croire en lui, croire dans sa parole. Et dire au Seigneur, pardon pour mes péchés, et maintenant je veux marcher selon ta volonté. Nous attachons ainsi au Seigneur, nous permettons à Dieu de déployer sa puissance et de réaliser une véritable action de délivrance, comme Paul l'écrit dans Romains 8, 2, une délivrance menée par l'Esprit de Jésus-Christ qui a affranchi le croyant de la loi du péché et de la mort. et de cette délivrance. Nous en avons tous besoin. Je ne parle pas d'une délivrance d'esprit méchant. Je parle d'une délivrance de la loi du péché, de l'iniquité qui était en nous à cause de notre nature humaine. En demeurant en Jésus, nous permettons au Seigneur d'agir. Mais si nous manquons de nous attacher à lui, si nous désobéissons au Seigneur, eh bien nous risquons de nous éloigner de lui et de nous exposer de nouveau à la puissance de la tentation et de la loi du péché. Christ seul a la puissance de nous délivrer de l'iniquité. Il est celui qui est capable de briser le phénomène cyclique impur. Ce phénomène, nous en avons parlé. Cet ivré qui va avoir son cycle de croissance jusqu'à produire son fruit. Il n'y a que Christ qui peut agir, non pas simplement pour la couper, mais pour la déraciner de nos vies. Il est celui qui détruit les bastions d'impureté et d'injustice dans nos vies. Il est surtout celui qui arrache le péché qui habitait dans nos cœurs. Je me suis arrêté cette semaine sur cette pensée. Dans Romains 7, Paul nous parle du péché qui habitait en nous, Romains 7, 17. Et en Romains 8, il va parler maintenant de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La loi du péché, l'iniquité a été arrachée, elle qui habitait depuis longtemps en nous. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Ça change tout, n'est-ce pas? Autrefois oppressé, autrefois limité, autrefois sous la servitude de l'iniquité qui habitait en nous. Maintenant, nous sommes libérés, nous pouvons avancer. De nouveaux champs spirituels s'ouvrent devant nous parce que c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous. Nous sommes libres. Mais la liberté, c'est un don précieux. Et surtout la liberté, nous devons apprendre à la vivre et à veiller sur elle, à l'entretenir. Elle est fragile parce qu'elle est rare. La vraie liberté est rare. Elle ne se trouve qu'en Jésus. Alors je voudrais cet après-midi parler d'abord de découvrir la liberté parce que quand nous avons été tellement habitués à vivre sous l'oppression, eh bien, découvrir la liberté comme ça du jour au lendemain, on se retrouve un peu démuni. Alors, il faut apprendre cela. Nous parlerons aussi d'un besoin de discipline, apprendre à discipliner notre vie. Et nous verrons notamment aussi quelques conséquences de cette délivrance. Donc, je veux d'abord m'arrêter sur cette idée de découvrir la liberté. Pour vivre libre, il faut reconnaître la victoire que Christ nous accorde. Paul écrit « Regardez-vous comme mort au péché et vivant par la grâce de Dieu ». L'iniquité a été vaincue. Elle n'habite plus en nous. Le Seigneur veut arracher toute puissance d'iniquité qui habite en toi, mon frère, ma sœur. Il ne veut pas que tu gises sous l'oppression de l'injustice. Il n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu vives dans une semi-liberté. Mais il faut un peu de temps pour cela, même lorsqu'on est libre. Pourquoi ? Rappelez-vous, je parlais du cadavre qui est comme attaché à nous. Notre vieil homme est mort en Jésus-Christ, mais il est toujours attaché. Mais Christ nous libère. Seulement parce que nous l'avons longtemps porté, il est comme un membre fantôme. Il n'est plus là, pourtant nous avons l'impression qu'il est là, mais il n'est plus là. Il va falloir un peu de temps avant de vraiment réaliser qu'il n'est plus là. Mais je crois que c'est une bonne chose. C'est une chose nécessaire. Pendant ce temps où nous faisons les premiers pas dans la liberté, nous devons aussi considérer vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Et donc de se dire, mais est-il toujours là ou n'est-il plus là dans mon dos? Ça nous met un peu dans la crainte vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des choses qui nous entourent, surtout celles qui avaient une influence néfaste sur nous. Parce qu'autrefois, on se brûlait. Et maintenant, on se met en garde. Et surtout, pendant cette période de découverte, on va faire le ménage. On va faire le ménage. Autour de nous et en nous. Pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne nous entraver. Pendant ce temps des premiers pas de la liberté, c'est aussi un temps où nous fortifions où nous fortifions notre foi quant à la délivrance. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que autrefois, nous étions régulièrement sous l'influence de l'iniquité, de l'injustice, de l'impureté, et puis Dieu a agi et nous rendons compte que l'iniquité n'agit pas. Les passions qui montaient en nous n'apparaissent plus. L'iniquité n'agit plus. Elle a disparu. Elle a disparu. Nous découvrons cela et nous étonnons, mais toutes ces choses qui montaient en nous ne montent plus. Ces pensées, ces besoins, ces passions, ces pulsions, non, c'est fini. Même les choses qui étaient comme des puissances d'addiction, n'ont plus d'effet sur nous. Et même les choses que l'iniquité utilisait pour nous accrocher, comme la tentation et la séduction, n'ont plus d'emprise. On ne ressent plus le besoin de s'en approcher. Et lorsqu'on y est exposé par inadvertance, parce qu'aujourd'hui la tentation cherche à nous rattraper de partout, eh bien, elle n'a pas plus d'effet sur nous que d'autres formes de tentation. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un était très sensible, par exemple à la boisson. Et c'était un combat, une iniquité qui était en lui. Le Seigneur le délivre. Je ne dis pas sa volonté, je dis le Seigneur le délivre. Il apprend et puis il se rend compte qu'après, avec le temps, eh bien, une boisson ou autre qui lui est présentée ne lui fait plus rien. Pas plus que lui dire, ben, on essaierait de le tenter par le jeu ou par autre chose. Mais ça ne fait rien, ça ne fait plus rien. C'est Dieu qui a agi et qui nous a libérés de cela. Et c'était absolument extraordinaire que de goûter à cette liberté. Avez-vous goûté à cela? Certains ont été libérés de la boisson. Certains ont été libérés de la cigarette, certains ont été libérés du jeu, d'autres de la pornographie, d'autres de tout ce qu'on peut imaginer, parce que vous savez, en matière, l'homme est très créatif. Mais Christ nous libère. Il nous rend réellement libres, et la puissance de l'iniquité n'a plus aucun pouvoir sur nous. C'est ça, la véritable liberté. Seulement, l'emprise de l'iniquité sur notre vie a été telle qu'il nous faut maintenant apprendre à vivre sans elle. Autrefois, elle influençait le cours de notre vie. Dans ce qui était extérieur à nous, dans les relations avec les choses ou avec les gens, dans les regards que nous portions, dans les pensées qui montaient en nous, dans les paroles qui sortaient de nous, enfin, tout cela. Mais aussi dans ce qui était profondément intérieur, oui, la manière dont nous regardions les choses, les gens, ce que nous entendions, ce que nous ressentions, la manière dont nous réagissions, les choses auxquelles nous portions de l'affection, l'iniquité avait agi tout ça parfois en nous transformant, en nous déformant. Je dirais que l'iniquité, l'injustice avait conditionné nos pensées, nos habitudes, notre regard sur la vie, notre instinct même. Libre en Jésus-Christ, il reste toujours des souvenirs cuisants et douloureux. Paul l'écrit. Ces choses nous font rougir encore aujourd'hui. Heureusement, le Seigneur nous a mis au loin de ça. Mais malgré tout, il est nécessaire de purifier notre être intérieur. De purifier notre être intérieur dans nos pensées, nos gestes, nos paroles, nos attitudes. Que le Seigneur nous redresse, qu'il nous reforme, qu'il nous renouvelle. Et comme Paul l'écrit dans Romains 8, versets 5 et suivants, nous devons changer l'objet de nos affections. Autrefois, nous avions l'affection pour les choses charnelles, celle vers quelle l'iniquité nous portait. Aujourd'hui, nous voulons nous affectionner aux choses de Dieu, aux choses de l'Esprit. Et il faut donc apprendre à penser, à aimer, à regarder, à agir d'une nouvelle manière conforme à la volonté du Seigneur. Le problème, c'est que même libéré, il y a eu cette influence de l'iniquité pendant des années, et notre cerveau, puisque c'est de lui qu'il est question, est encore sous influence et encore sensible à certaines sollicitations, à certaines tentations auxquelles il avait l'habitude autrefois de réagir. Il en a gardé des traces. Parce qu'il était habitué, conditionné. Et maintenant, dans certaines situations, il peut encore produire des choses. Tiens, tu as eu l'habitude de faire ça, de penser ça, de regarder comme ça. Alors pourquoi ne le fais-tu plus maintenant ? Il faut lui imposer un redressement. Affranchi de la puissance de l'iniquité, il faut éduquer notre cerveau, il faut éduquer nos sens. Tout d'abord, en apprenant à garder nos pensées, nos sentiments. David disait qu'il se gardait de son iniquité. Même affranchi de l'iniquité, libéré de la puissance de l'injustice, nous savons que telle iniquité avait une influence terrible sur notre vie autrefois. Nous mettons en garde. Nous nous en éloignons. Nous ne voulons pas être en contact avec elle. Il faut donc s'imposer une discipline corporelle, mais aussi une discipline intérieure. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce qui autrefois était impossible à la chair, Paul l'écrit, devient possible maintenant parce que l'Esprit de Christ habite en nous. Autrefois, c'était la loi du péché qui habitait en nous. Elle nous imposait de faire ce que nous ne voulions pas faire. Mais maintenant que Christ a agi, qui nous a délivrés, qui nous a affranchis, ce n'est plus la loi du péché qui domine en nous, mais c'est la loi du Saint-Esprit qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, nous avons la puissance de dire non. Non aux pensées qui montent en nous. Non au regard que nous posons sur les choses ou sur les personnes. Non aux paroles qui sortiraient de notre bouche. Non aux actes que nos mains pourraient accomplir. Non aux sollicitations extérieures. Et là où autrefois nous étions quasiment en situation d'échec permanent, aujourd'hui notre non devient suffisant pour remporter la victoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus la loi du péché qui domine sur ma vie, mais c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et maintenant, libérés de la puissance du péché, il nous appartient de mener une vie digne du Seigneur. Nous devons et nous pouvons mener cette vie sainte. Autrefois, quand on disait « rejette, détourne-toi, repousse, sépare-toi, renonce », nous étions comme livrés à nous-mêmes face à cette puissance qui habitait en nous. Et nous étions vaincus, c'était terrible. Mais maintenant que cette puissance n'est plus en nous, mais que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, alors nous avons vraiment toute la liberté. Mais nous avons le devoir aussi, c'est clair, de dire non, de nous détourner, de nous rejeter, de fuir les choses qui avaient une emprise sur notre vie, de purifier tout ce qui est comme environnement extérieur. Ça ne veut pas dire que nous allons nous séparer, nous n'allons plus vivre dans ce monde, parce que nous y sommes. Mais nous ne voulons plus que ces choses aient une influence à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, comme Paul l'écrit dans les Éphésiens, nous allons renoncer. Peut-être même serait-il bon de dénoncer. Vous voyez la différence ? Parce qu'il ne suffit pas de renoncer en disant « oui, je renonce parce qu'il faut que je le fasse », mais il y avait quand même des trucs qui étaient pas mal. Ça, c'est les Israélites dans le désert. Ah, l'Égypte, oui, la servitude, mais il y avait quand même les concombres, les oignons et tout ça. Non, on renonce et on dénonce. Parce que ces choses me tenaient dans l'asservissement et je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Paul écrit dans Romains 15, Je rejette le péché. J'ai presque de la haine pour le mal. Amen. Et je veux le bien. Alléluia. Et ainsi, nous pouvons témoigner maintenant d'un véritable changement de mentalité. Et parce que notre mentalité est changée, nos comportements vont changer. Nous avons maintenant la possibilité d'exercer notre volonté et de produire l'effort soutenu par le Saint-Esprit pour mener une vie sainte. En tout cas, ce qui est clair pour conclure ce point, c'est que nous ne laisserons plus le péché dominer sur nous. Je suis libre. Parlons maintenant des conséquences de la délivrance. Délivrés de la puissance de l'iniquité, nous triomphons là où nous étions autrefois systématiquement vaincus. Et la première des choses, c'est que la tentation, je le disais tout à l'heure, la tentation n'a plus de prise sur nous. Et nous disons non parce que nous voulons vivre une vie digne de notre Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous en aurons fini avec le péché. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Il manque que le Seigneur revienne. Avec lui, c'est sûr, là-haut, il n'y aura plus de problème. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous vivons dans un monde dont le prince est Satan. Mais ce qui est maintenant différent, c'est notre positionnement vis-à-vis du péché. Autrefois, le péché autour de nous, mais le péché habité en nous. La loi du péché habitait en nous. Mais Christ nous ayant délivrés, nous vivons toujours dans un monde déchu, marqué par le péché, mais le péché n'habite plus en nous. C'est l'Esprit qui habite en nous, l'Esprit de Jésus. Donc le péché n'a plus d'emprise en nous, n'a plus de possession en nous. Il devient extérieur. Et donc son influence et sa puissance est bien moindre. Parce qu'il ne trouve plus d'écho en nous. Vous comprenez ça? Mais Christ va nous fortifier. Parce que ça, être libre aussi, ça ne veut pas dire en avoir fini avec la tentation. De toute façon, maintenant, que voulez-vous? Vous mettez votre ordinateur en marche sur l'Internet et tout vous arrive presque à la figure. Vous mettez la télévision, vous mettez la radio, vous sortez dans la rue. Et ici, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de pas pour y être confronté. Mais ce qui autrefois excitait nos passions n'a plus d'écho en nous. Ne trouve plus d'accroche en nous. Nous sommes libres vis-à-vis de ça. Donc nous n'aurons pas fini avec le péché, nous n'aurons pas fini avec la tentation, mais ça ne veut pas dire aussi que nous sommes devenus parfaits. Mais libérés de la loi du péché qui habitait en nous, qui était une servitude dans nos vies, qui nous empêchait de progresser, au contraire, chaque fois que nous voulions avancer, nous avancions, jusqu'à ce qu'elle finisse par nous faire tomber. Vous avez connu ça ? J'ai connu ça, vous avez connu ça, j'en suis convaincu. Maintenant, nous sommes libres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'avance et je peux continuer d'avancer. J'avance. Et je ne me laisserai plus asservir par quoi que ce soit. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'y aura plus d'épreuves. Il y aura des épreuves. Il y aura peut-être la maladie. Il y aura des temps difficiles. Mais je ne me laisserai plus asservir. Mais l'Esprit de Christ sera avec moi. Libéré de la loi du péché qui habitait en moi, je peux avancer dans tout ce que le Seigneur a préparé pour ma vie. Il n'y a plus rien qui m'empêche, qui me freine, qui me retient. Et même ce qui va se passer, c'est que libéré de cette poutre, le Seigneur va pouvoir mettre l'accent sur la paille. Et de plus en plus, sans dire « Seigneur, oui, transforme-moi ». Et là, après, le Seigneur va libérer de la puissance d'iniquité. Dieu va pouvoir agir de plus en plus sur notre caractère pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est vraiment ça aussi une grande grâce. Encore trois autres conséquences de la délivrance de l'iniquité, voilà aussi des points importants, c'est qu'en brisant la puissance d'injustice qui agissait en nous, Jésus a détruit la dernière emprise que l'ennemi avait sur nous. Autrefois, le péché habitait en nous. Maintenant, c'est l'Esprit qui habite en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien que nous sommes réellement dégagés de la malédiction attachée à l'humanité depuis Adam, et que maintenant nous revenons pleinement dans le plan de bénédiction que Dieu avait prononcé sur l'homme. Le péché n'a plus d'emprise, il n'a plus de part en moi. Et je reviens dans ce que Dieu a préparé pour nous. Je crois aussi qu'à ce moment-là, nous devenons pleinement des hommes nouveaux. Non plus simplement spirituellement, mais dans tout notre être. Oh, juste une parenthèse, parce qu'il en parle aussi un peu après, à l'exception de notre corps. Lui, il va devoir attendre la résurrection. L'enlèvement de l'Église, alors Dieu nous donnera un corps incorruptible et immortel. Et maintenant, notre corps, oh, nous n'avons pas tous le corps de Moïse, qui est mort avec une très bonne vue, une bonne ouïe. Notre corps peut se dégrader. Et maintenant, vous allez le comprendre, quand la loi du péché n'est plus en nous, notre corps ne s'en porte que mieux. Qu'en pensez-vous ? Mais ce que je veux dire surtout, c'est quand l'Esprit de Christ habite en nous, et pas simplement au niveau de notre esprit, ça c'est la conversion, mais maintenant l'Esprit de Christ habite dans notre être intérieur, dans notre âme, notre volonté, notre intelligence, nos émotions, l'Esprit de Christ est là. Quand autrefois c'était la puissance de l'iniquité qui s'était logée à cet endroit, maintenant c'est l'Esprit de notre Seigneur. Et là se produit cette transformation, cette véritable sanctification à laquelle nous soupirons. Je crois aussi, toujours, comme nous sommes libres de la puissance, de dernière puissance que l'ennemi avait sur nous, que maintenant nous sommes pleinement des hommes nouveaux, nous rentrons de nouveau dans les paroles de bénédiction que Dieu avait prononcées sur Adam quand il avait béni Adam et sa postérité. Et je suis convaincu de ceci, c'est que libérés de la loi du péché qui habitait en nous, nous allons rentrer dans une période de véritable prospérité à tous égards, spirituelle, morale, physique, et aussi dans notre environnement de tous les jours, parce que nous serons comme dans un nouvel Éden. Maintenant, deuxième conséquence, la délivrance de l'iniquité permet aussi la guérison de nos fractures. Nous l'avons dit, l'iniquité aime à s'immiscer dans nos blessures, dans nos fractures morales, dans nos fractures familiales les plus profondes. Et ces fractures-là sont le terrain privilégié pour l'iniquité. L'iniquité s'y enracine, elle s'en nourrit, et parce qu'elle aime ce milieu, elle empêche la guérison. Au contraire, se nourrissant de ces blessures, elle va provoquer des comportements déviants sur le plan relationnel, affectif, comportemental, social, sexuel, et elle se nourrit de ça. L'iniquité est là. Mais quand le Seigneur vient, qu'il arrache l'iniquité du plus profond de notre être, alors il va aussi s'occuper de nos fractures. Tant que l'iniquité est présente, nos blessures ne peuvent pas être guéries. Mais quand Christ nous libère, il sait que nous sommes blessés. Il sait que nous sommes fragiles et il va agir. Peut-être aurons-nous à ce moment besoin d'une aide, d'un accompagnement en vue d'une restauration, d'un conseil, de prière. Mais ce qui est certain, c'est que libéré de cette iniquité qui était enracinée dans nos vies, la guérison va venir. La guérison va venir. Dernière chose, l'iniquité ne se contentait pas de nous humilier personnellement, elle a détruit notre environnement. Et combien ont souffert familialement, relationnellement, professionnellement, à cause des conséquences de la puissance du péché qui habitait dans leur vie, avec parfois des conséquences irréparables, les divorces, des couples brisés, des familles détruites à cause de l'injustice qui s'était établie, soit dans la famille même, dans les relations familiales, soit dans le cœur d'un papa ou d'une maman. Et tout a explosé. Des carrières professionnelles ont été perdues, apparemment, parce que l'iniquité avait détruit. Et alors, on a été mis au ban. mais il est de la volonté du Seigneur de restaurer ce que l'iniquité a détruit. Dieu n'est-il pas capable de redonner ce que le sauterelle et le criquet ont dévoré ? Nous dit le prophète Joël. Alors le Seigneur veut non seulement nous restaurer intérieurement, mais il veut aussi restaurer notre environnement. J'ai vu le Seigneur reconstruire des familles brisées, même jusqu'au divorce. Rétablir des relations perdues entre des parents et des enfants, entre des amis. J'ai vu le Seigneur aussi restaurer en confiance, en compétence, un frère, une sœur, en vue d'un nouvel avenir et d'une nouvelle réussite professionnelle. Christ n'est pas simplement un libérateur, il est aussi le restaurateur. Le restaurateur des brèches. Alléluia. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à parler de cette vie en abondance, la vie nouvelle que le Seigneur veut nous donner. Christ nous a affranchis pour la liberté. Et il nous faut retenir ceci. Nous en sommes les gestionnaires. Et il nous appartient de savoir ce que nous allons faire de cette liberté. Car quand la Bible nous dit « vous serez réellement libre », ça veut dire que Dieu nous dit aujourd'hui « tu es libre, mais tu es réellement libre ». À toi, maintenant, de faire tes choix. Quel choix allons-nous faire ? Le croyant est libre alors de mener sa vie en Jésus, avec Jésus, pour le royaume de Jésus, ou alors il est libre de mener sa vie comme bon lui semble. Non, le Seigneur nous a franchis réellement. Mais souvenons-nous maintenant du conseil de la parole de Dieu. Paul écrit dans Romains 6, 19, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, nous dit-il, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » C'est un choix personnel. Autrefois, j'avais livré ma vie à l'iniquité. Et Paul nous dit, maintenant que tu es libre par la puissance du Saint-Esprit, considère donc de livrer ta vie à Jésus-Christ pour arriver à la sainteté. Quitter, ou vivre plutôt cette vie comme bon nous semble, nous expose de nouveau à la puissance de l'iniquité. Je le disais tout à l'heure, le péché et l'injustice sont ambiantes dans ce monde. Rappelons-nous des paroles du Seigneur. Dans Matthieu 12, 43 à 45, Jésus dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, je sais que Jésus a dit cela d'un esprit méchant. Je crois que ce qu'il a dit là peut aussi s'appliquer à la puissance de l'iniquité. Christ est l'homme fort qui a lié l'iniquité. Il l'a mis dehors. Il balaye notre maison, il orne notre maison de sa grâce. Mais il convient maintenant que notre maison soit habitée. Est-ce que Jésus va réellement habiter notre maison ? Ce n'est pas le fait de dire « Seigneur, je te donne mon cœur ». C'est vraiment « Seigneur, viens habiter en moi, dans ma maison ». Parce que si nous nous contentons de dire « Seigneur, ok, merci pour cette délivrance, mais maintenant je veux mener ma vie avec les grâces que tu m'as accordées ». Eh bien, nous risquons de nous retrouver exposés de nouveau à la même iniquité, et Jésus nous dit même à 7 fois plus fort. Et la condition sera pire alors. Mais le Seigneur veut nous appelle, il veut nous donner une véritable vie, une vie libre, une vie libérée de ses entraves, une vie purifiée de ses addictions, une vie avec une perspective de développement. Livrons notre vie au Seigneur. » Autrefois, nous étions sous la puissance de forteresses spirituelles d'injustice qui déversaient régulièrement leur flot d'impureté en nous. Nous avons connu cela. Si vous le connaissez, Dieu vous purifie. Elles étaient autant de points de blocage par rapport à toute croissance dans la vie chrétienne. Ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, elles sont tombées. La puissance de l'iniquité, c'est Jéricho. C'est Jéricho. Et tant que Jéricho demeure là, on ne peut pas avancer plus loin dans le pays promis. Ce n'est pas possible de la contourner. Elle est présente. C'est une forteresse incontournable. Tu as franchi le Jourdain. Tu es rentré dans le royaume de Dieu. Tu vas avancer dans le royaume de Dieu. Mais le premier obstacle que tu trouves en face de toi, c'est Jéricho. Le Seigneur renverse les murailles de Jéricho. Attention toutefois. Après Jéricho, il y a une autre ville. Oh, elle est petite, toute petite. Elle s'appelle Haï. Tellement petite que, oh, c'est évident, par nous-mêmes, nous allons pouvoir traiter ce petit problème. C'est ce qu'ont pensé Josué et ses armées. Mais devant la ville d'Haï, ils ont été défaits. Parce qu'ils avaient oublié de se confier dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous donne la victoire sur Jéricho, ne nous croyons pas arriver. Mais veillons à ne pas tomber, à ne pas enfler d'orgueil, spirituellement parlant, parce que les petits haïs qui sont dans notre vie pourraient nous faire rapidement déchanter. Mais veillons à tout cela. Maintenant, l'image la plus saisissante que je peux donner de cette nouvelle situation, de notre nouvelle vie, moralement et spirituellement parlant, fait référence au millénium. Et je vais finir par ce point. Le millénium. D'abord, un rappel court sur ce qu'est le millénium. Le millénium, la Bible nous dit que c'est une période de 1000 ans après le retour de Jésus sur terre. Pendant cette période de 1000 ans, le Seigneur règnera sur la terre avec son épouse, l'Église, et il règnera à travers Israël. Ce règne de Jésus sera un règne de paix, de justice, de vérité. Pourquoi ? Parce que d'abord, il règnera, et aussi, nous dit la Bible, parce que le tentateur, l'accusateur, Satan, aura été enfermé. Apocalypse 21, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alors pendant cette période de 1000 ans, Satan sera enfermé. Mais la Bible nous montre aussi que les hommes pourront continuer à pécher à cause de leur propre fond. Quant à nous, lorsque je dis que nous vivons en Jésus-Christ un petit millénium, c'est pour dire que celui qui avait la puissance de l'iniquité a été arraché de nos vies. Tout comme Satan sera lié et enfermé pendant 1000 ans et ne pourra plus tenter et séduire le monde pendant cette période, libérés de l'injustice qui nous oppressait, c'est comme si nous rentrions dans un petit millénium. Un règne de paix, de justice et de vérité à l'intérieur de nous-mêmes. Comme si le millénium en Jésus commençait déjà en nous. C'est un avant-goût de cette éternité, un avant-goût du règne de Jésus-Christ. Mais tout comme pendant le millénium, les hommes pourront pécher, attention, mettons-nous en garde, il y a toujours des haïs et nous pourrons toujours pécher. Mais ça ne sera plus par la puissance de l'iniquité ou la loi du péché qui habitait en nous, mais ça sera par notre volonté. Mais qu'il est merveilleux de goûter à la présence de Jésus-Christ. Paul nous parle des prémices de l'éternité. Et dès aujourd'hui, nous pouvons vivre les prémices du millénium. Tout en étant dans ce monde encore déchu, nous pouvons vivre individuellement, en couple, en famille, dans l'Église, la paix de Dieu, la justice de Christ et son amour. Non seulement le vivre, mais le communiquer. Non seulement le vivre, mais le partager. Alors en conclusion, je reviens une dernière fois sur Romains 8 pour lire à partir du verset 19. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le suivre encore avec moi. Voilà ce que Paul écrit, Romains 8, 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et on va arrêter là. La création attend la révélation des fils de Dieu. Bien sûr, ce texte est écrit dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Mais ne sommes-nous pas les fils de Dieu, fils et filles du royaume de Dieu? Je crois que la création attend que les enfants de Dieu se manifestent. Non pas des chrétiens en semi-liberté, mais des gens véritablement libres. Paul écrit, des gens affranchis de la servitude de la corruption. Des gens, les fils de Dieu, qui manifestent la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ce que le monde attend. Des chrétiens authentiquement libres, qui ont une puissance, une paix, une vie à communiquer autour d'eux. N'attendons pas le millénium. Vivons-le dès aujourd'hui. J'ai demandé à Marianne si tu veux bien venir avec ton groupe de chant une dernière fois aujourd'hui, merci. Voulez-vous vivre cette liberté? Voulez-vous, je vais le dire comme ça, veux-tu commencer à vivre ta vie chrétienne? Non plus en semi-liberté, mais véritablement libre. Autrefois, nous étions dans une véritable prison. On était pris de tous côtés, puis Christ a ouvert la porte de la prison. Mais la dernière prison qui reste, elle est dans le cœur de l'homme. Et ça, le Seigneur veut l'abattre pour que tu sois libre. Alléluia.